On va parler de ces changements qui sont entrés en vigueur hier concernant la loi canadienne sur le divorce, des changements importants. Et là, avec Maître Schirm, on va essayer d'être concret parce qu'on comprend l'idée là, qui est de dire qu'il faut tenir compte dans les jugements de divorce de la violence familiale, de la violence conjugale. Et là, vous retrouvez les phrases habituelles. « Promouvoir l'intérêt de l'enfant à accroître l'efficacité du système de justice, réduire la pauvreté chez les enfants et contrer la violence conjugale. » Maître Schirm, bonjour.
Bonjour. Des principes importants.
C'est principes importants, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change?
Alors, il y a plusieurs changements. Pour commencer, on arrête de parler de garde et de droit d'accès. Parce qu'on a considéré que le mot garde est comme une source de débat entre les parents. J'ai la garde, c'est comme une question de possession de l'enfant. Alors, on parle maintenant de temps parental. Alors, peu importe comment on le partage, c'est du temps parental et non plus qu'un parent a la garde et l'autre a des droits d'accès. Dans le but justement d'éviter le conflit ou la sensation d'avoir gagné sur l'autre parent ou d'avoir gagné l'enfant. Deuxièmement, le gros changement, c'est justement cette définition de la violence familiale qui est extrêmement détaillée et dont les juges sont maintenant forcés de considérer quand ils évaluent qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. La définition du meilleur intérêt de l'enfant est très, très détaillée. On tient compte de plusieurs facteurs et on le détaille. Parce qu'au Québec, dans notre code, on a un article qui le prévoit, mais qui est assez simple et qui n'est pas détaillé. Tandis que dans la loi sur le divorce, on a vraiment détaillé c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant et c'est quoi les critères que le juge doit forcément considérer. Et dans ces critères, c'est effectivement la présence de la violence familiale. La définition de la violence familiale est très large. C'est non seulement la question des mauvais traitements physiques, mais aussi les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière. La menace de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien fait partie de cette définition-là de la violence familiale. Et on va tenir compte, le juge est forcé de tenir compte de ce phénomène-là parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que les juges sont confrontés à est-ce que je permets l'enfant de voir son père, même s'il est violent, même s'il a commis la violence conjugale contre la mère? Est-ce qu'il était présent lorsque l'incident est arrivé? Et parfois, quand on dit, mais l'enfant n'a pas été victime de cette violence, on l'écarte. Tandis que maintenant, on parle de violence familiale et on tient compte de l'impact de la violence conjugale sur l'enfant, ce qui est très important. Alors, cela va forcer les juges à vraiment regarder quel est l'impact de cette violence-là. On ne pourra pas simplement l'écarter en disant, écoutez, l'enfant n'a pas été frappé ou n'a pas été victime de cette violence-là. Et on va tenir compte de tous ces faits-là dans l'analyse de qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Également, on laisse la place au tiers. On parle d'ordonnance de contact.
Mais je voudrais poser une question, Maître Schirm, parce que la violence familiale, puis là, vous avez l'expérience pour nous éclairer, là, c'est que ça peut amener des relations, disons, conflictuelles. Cette espèce de déchirance qu'ont des enfants face à un parent, mettons, qui est violent, qui est abuseur, mais qui est un parent aussi qui a des moments gentils où l'enfant est tiraillé, là. Son père n'est pas juste quelqu'un qui le frappe, son père est aussi quelqu'un avec qui il va jouer. Comment un juge peut, à la lumière de ses dispositions, trancher dans ce genre de cas?
Bien. C'est ça le défi, et vous avez tellement raison, parce que les enfants aussi, les enfants maltraités veulent continuer d'avoir des relations avec leurs parents. Alors, le but ici, c'est de trouver des façons de les protéger. Parfois, on va utiliser les droits d'accès supervisés, on va faire une évaluation psychologique, ou on va imposer que les contacts soient faits d'une certaine façon, justement, pour protéger l'enfant. Et on va voir, et c'est prévu dans la loi, quelle est l'intention du parent violent d'essayer de changer son comportement. Est-ce qu'il a pris des démarches? Est-ce qu'il a suivi une thérapie? Est-ce qu'il a reconnu ses torts? Alors, on va tenir compte de ça. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre entre le contact et le parent qui est abuseur, là, mais on va essayer de le faire dans le contexte de chaque enfant aussi, parce que les tribunaux vont regarder ça cas par cas. Alors, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, les circonstances, etc. Mais c'est possible aussi de faire ce qu'on appelle des droits d'accès supervisés pour commencer et de voir de faire un suivi du dossier, même en cours supérieur.
Puisque vous êtes là, où on en est dans la réforme du droit de la famille au Québec?
Une autre très bonne question. Alors, il semble que ça bouge. J'ai rien d'officiel à vous dire, mais il semble que cela avance, qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Mais la question de la réforme, ici, dans la loi sur le divorce, Vous savez, ça s'applique seulement aux gens mariés.
Bien, c'est ça, on parle du divorce.
Voilà. Donc, ça veut dire, est-ce que les enfants des conjoints faits n'auront pas le droit de profiter de cette réforme qui parle de violence familiale, qui parle de temps parental, qui ouvre la porte à l'accès à des tiers significatifs dans la vie de l'enfant? Est-ce qu'il y a lieu, donc, de bouger très rapidement? Parce que ça va être complètement illusoire de penser qu'on ne peut pas appliquer ces principes-là aux enfants des conjoints faits, qui représentent d'ailleurs la plus grande majorité au Québec là, dans les couples. Alors, il faut vraiment là, que la réforme bouge. Est-ce que les tribunaux vont appliquer ces principes pour les conjoints de fait? Moi, j'oserais le plaider. Je pense bien, parce que c'est des principes importants, mais ce n'est pas dans la loi. Alors, il va falloir que Québec bouge, puis rapidement, pour que les enfants des conjoints de fait aient exactement les mêmes protections et les mêmes droits que les enfants des gens mariés.
Merci, Maître Schirm. Bonne journée.
Merci.
Au revoir, Maître Sylvie Schirm, qui est avocate en droit de la famille. On va aller retrouver Marc. Ça se passe comment sur le réseau?